Écoutez, chose promise, chose due. On attendait évidemment que la période des transactions soit terminée. Paul Fevenir pour rien non plus. Et Paul Fevenir 50 fois, mais il est avec nous ce matin. Jean-François Grégoire, entraîneur-chef, également directeur général du Rancard de Baie-Comeau. Bon matin, monsieur Grégoire.
Bon matin.
Bon matin.
Merci d'avoir bravé la tempête pour être venu nous voir.
Des bons pneus.
Ben écoute, quand on est à la tête d'une formation qui brave justement des tempêtes sur la glace, faut en braver à l'extérieur également. Fait que merci, oui, merci beaucoup Jean-François d'être là. Puis c'était vraiment un moment,
Écoute, on vous a reçu au début de saison pour faire un petit peu le portrait de ce que pourrait ressembler la saison 2023-2024. Là, on est rendu à mi-saison, période des transactions est terminée. Par rapport à ce qu'on a dit du plan de match en début de saison, on en est rendu où?
C'est parce que, évidemment, on avait parlé qu'on allait voir, on allait évaluer notre formation rendue aux séries, mais il y avait plein de choses d'inconnues un petit peu. Dans le sens que on avait les frères Boilard, on savait pas qu'est-ce que ça allait donner, on savait que c'était des joueurs talentueux, on savait pas nécessairement, l'impact. Il y a aussi le fait de la façon dont les joueurs vont avoir le certain step, on va dire, avec une année de plus, et les surprises. Fait que c'est pas mal les trois éléments avant pour voir comment on va évaluer une équipe. Écoute, Jean-François, il n'y a pas grands observateurs qui pensaient que le Drakkar de Baie-Comeau serait au sommet de la Ligue avec une telle avance au niveau des points et qu'on serait à une cinquième semaine au niveau du fameux top 10 là, de la Ligue canadienne. Il n'y a pas d'observateur qui avait prévu un succès à ce point-là. On savait qu'on avait quand même des atouts intéressants en main. Ben, moi, j'aimerais justement qu'on en parle de cette première moitié de saison. Les éléments qui ont fait en sorte qu'on s'est retrouvés, là, tu comprends, avec un tel résultat en moitié de saison.
Je pense que c'est dans ton préambule, évidemment, l'adaptation des Boilards, c'est la contribution de Justin Gill, les surprises, Julien Payet qui contribue... l'année de plus aussi d'expérience, puis à ça aussi le désir de notre groupe de base, notre noyau de base, de voir l'opportunité pour eux qui finalement étaient dans les favoris. Tu sais, là, on est premier au classement, mais tu sais, quand l'année a commencé, on savait qu'on était pour avoir une bonne équipe, mais au niveau des points, tu le sais jamais. Donc, je pense que c'est l'ensemble de tout ça. Puis après ça, ben au niveau de nos décisions pour les échanges, ben c'est justement de reconnaître ce groupe-là, de leur donner un push qu'on est avec eux, puis de prendre les décisions qui vont faire en sorte, des fois, de sacrifier un jeune comme Julien Lantier pour amener un vétéran à la ligne bleue. Parce que nous, on voulait pas sacrifier le futur, parce qu'on a de très, très bons éléments pour les prochaines années encore, mais on voulait respecter l'effort, puis on voulait aussi vivre dans le présent, puis se donner les outils pour être capable d'être compétitif contre les autres équipes qui vont, eux aussi, s'améliorer.
Parce que, comme on disait au début de saison, c'est comme la troisième année de 4, là, fait qu'il y a cette année, puis il y a l'année prochaine également, là, le fameux 3-4, 2-3-1-2, là, il y a cette année, mais il ne faut pas oublier l'année prochaine aussi, là, parce qu'on va avoir une bonne équipe aussi l'an prochain.
Une bonne équipe l'année prochaine, puis encore, dans le fond, l'aboutissement de tout ça, si on parle de de la fin du cycle, va être avec justement nos 2006, les 17 ans, Poirier, Bernier et justement Raoul Boilard. Il reste beaucoup, beaucoup de belles années, puis c'est le fun pour l'organisation. C'est le fun aussi pour les joueurs, évidemment, parce que t'évolues dans un contexte compétitif et gagnant. C'est intéressant.
On a vu avec les transactions que tu as faites que vraiment tu as été conséquent avec ce que tu nous avais dit quand on s'était rencontrés précédemment. Mais là, on commence cette saison de cette façon-là. On voit les points s'accumuler, on voit comment on se positionne. À partir de quel moment dans la saison tu as dit « Bon, ben j'évalue des choses, j'ai un certain plan, puis c'est de cette façon-là que je vais y aller dans la période des transactions, si, à peu près là, dans la saison. »
Vers le mois de novembre.
Le
mois de novembre, là, on voyait ce qui se dessinait. Les 10 premiers matchs, beaucoup d'équipes peuvent commencer fort puis ça va changer, mais quand tu es rendu presque à 25-30, puis ça continue, là, c'est plus de la chance. Là, c'est vraiment là, le fait « OK, bon, mais là, c'est ça nos éléments, c'est l'équipe qu'on a. » Donc, c'est pas mal dans ces alentours-là qu'on a pris les décisions de l'alignement qu'on devait prendre pour les échanges.
Ce qu'on entendait dans les échanges, et puis finalement, c'est à peu près ce qui s'est avéré au niveau du scénario, on entendait parler d'un défenseur, on entendait parler d'un attaquant et on entendait parler d'un gardien. C'est trois positions qu'on a entendues un bout. Et puis finalement, il est arrivé cette période des échanges-là, justement, période des échanges où tu voulais vraiment montrer également à tes joueurs que, bon, vous m'avez donné quelque chose en première moitié, je vais faire en sorte qu'on ait des cartes supplémentaires, qu'on ait de la profondeur. Il y a tout ça là, qui est là-dedans dans ces transactions-là. Alors là, on est rendu là. On est rendu à la période de transaction. On fait un premier mouvement qui est quand même, qui a été fait très tôt dans la période de transaction. C'est au niveau du gardien. Mm-hmm. Là, on a amené Charles-Édouard Gravel à Bécomo. On parle de cette première transaction-là un petit peu. Là. On commence avec le gardien.
Charles-Édouard, c'est un gardien de but depuis qu'il a 17 ans là, à Blainville, qui est numéro un. Dans le fond, il a pris la place d'Olivier Adam, qui s'est emmené avec nous. Donc, c'est un gardien de but d'expérience qui a beaucoup, beaucoup de millage. Ses chiffres sont constants. Ses chiffres sont très bons. Puis, il était à 0.91 d'efficacité avec 2 points de but alloués avec une équipe qui n'était pas vraiment comme la nôtre. Mm-hmm. Donc, ses chiffres étaient très, très bons. Puis on savait, l'année passée, il était venu contre nous le jouer au mois de janvier. Puis, nous avait battu 2-1 et 1-0, qu'on avait quasiment 50 tirs par.
On l'a encore en mémoire.
Moi, je m'en rappelais parce que ça a créé une panique partout. Là, fait qu'il fallait calmer bien du monde.
Oui, ça, c'est bon d'en parler parce qu'il y en a eu des paniques sur toutes sortes de tirs. On va même parler de la
pression. C'est pour ça qu'on se concentre sur les choses à l'intérieur, puis qu'on s'occupe de nos propres affaires. Mais
c'est correct aussi,
c'est nos choses. L'émotion est correcte, l'extérieur, mais on gère nos choses. Non, mais c'est un très bon gardien, donc je savais qu'est-ce qu'on amenait. Puis, pour moi, on était 15-3, 16-3, 17-3, ça montait toujours. Puis on avait un désavantage numérique qui était à 72, 73, 74 %. C'était inacceptable, mais fallait trouver pourquoi. À un moment donné, c'est pas juste une question de système. On considérait là, que à cette position-là, on accordait des mauvais buts. Puis on était encore en première position avec notre gardien de but numéro 1 qui était à 87 à un moment donné, 88. Donc, tu sais, il y a une passe que ça sert repositionné, mais il était trop tard. Notre décision était prise, qu'on s'en allait avec d'autres choses.
Bon. Okay. Là, à partir de ce moment-là, on a notre gardien pour le reste de la saison et pour débuter les séries. En parlant de gardien, je vais sauter un petit peu du coq à l'âne parce que il y a eu une autre transaction impliquant un gardien et après, on va y revenir. Philippe Bourdage qui se retrouve du côté de Rouyn-Noranda, puis on a vu également Beckman faire ses premiers pas à Bécomo. Là, on est rendu à évaluer cette autre transaction-là au niveau des gardiens, Jean-François.
Ben, c'est pas une transaction. Dans le fond, ce qu'il faut évaluer, c'est pourquoi que Lucas Beckman est ici, puis c'est ce qu'on a mentionné tantôt. Il nous reste plusieurs années. Lucas Beckman, c'est notre gardien d'avenir.
Il y a 16 ans, là.
Il y a 16 ans. Puis avec la stabilité d'un Charles-Édouard Gravel, c'est pour nous, c'est un contexte idéal pour lui, pour l'amener, le former, où ce qu'il va pouvoir vivre cette demi-saison avec nous. Ça va le préparer pour justement son 17 ans. Et après ça, s'il tombe numéro 1 à 18 ans, mais il va avoir vécu là, avec Charles-Édouard pendant un an et demi. Parce qu'on considère que c'est une belle préparation pour nous amener aussi pour les prochaines années. Ce qui a fait en sorte que Philippe Bourdage, qui est un super bon individu, un très bon étudiant, tombait troisième. Puis, tu sais, avec Philippe, pour moi, c'était vraiment de faire en sorte de... Parce que, tu sais, il y a un côté business, mais il y a un côté humain aussi. Puis il y a des gens que tu veux faire les choses de la bonne façon quand ils le méritent. Puis, tu sais, c'est un jeune homme qui veut étudier en médecine. Fait que pour moi, c'était de faire en sorte de le garder au niveau junior majeur. Parce que s'il s'en allait ailleurs, s'en allait dans un autre circuit, il perdait l'accessibilité de ses bourses. Okay. Donc ça, c'est un autre facteur que les gens connaissent pas, mais tu sais que c'est vraiment important. Puis on a voulu faire en sorte de le garder dans la ligue. Puis il y a une équipe qui s'est manifestée, qui était Rouyn comme gardien de but numéro 2. Donc on a décidé de prendre la décision pour son futur à lui. Puis, okay. Parce que s'il n'aurait pas gaulé, c'était Lucas qui s'en venait terminer la saison.
Ouais, vous avez rendu de bons services également. C'est une manière de le remercier pour son attitude et ses services.
Exact.
Puis là, tu parlais, on va finir là-dessus. Ben, là, on a le côté mentorat, on a le côté qu'on va le développer, qui va continuer à garder les buts avec nous. Évidemment, on va voir ton utilisation là, pour la suite des choses. Puis il nous a montré beaucoup de calme dans le filet, là, puis des bons résultats dans, où il évoluait là, précédemment.
Ben, alors, Lucas, il aurait débuté la saison avec nous là, si ça avait été Charles-Édouard Gravel, un type comme ça qui avait été au début de l'année avec nous.
Bon. OK. On va lâcher le filet. Ouais. On va aller maintenant vers la défensive.
Le temps file, fait qu'on va peut-être accélérer.
Oui, ben oui, puis si on veut un peu parler de Angus Booth. Écoute, son nom revenait constamment dans les discussions. Ben finalement, son nom a fait en sorte que là, on l'a avec la formation du Drakkar de Bécomo. Juste en parler de cet aspect défensif et les raisons pourquoi on est allé chercher Booth.
Leadership, t'es capitaine avec Shawinigan. Mm-hmm. Il a participé à Coupe Memorial quand il avait 17 ans. puis l'expérience. C'est un défenseur qui joue bien là, défensivement, puis capable de contribuer aussi offensivement avec une bonne relance. Donc, c'est la stabilité. C'est un gars d'expérience.
Très mobile aussi, là,
ouais, sur la patinoire. Oui, c'est ça. C'est, ouais. Fait que, c'est pour rien qu'il est repêché par l'équipe de la Ligue nationale. Donc, on a pris la décision de... Tu sais, il n'y avait pas 12 sur le marché. Là, c'était Luno, c'était Denomé Higgins aussi qui était avec Batters. Puis c'était beau. C'était les noms les plus importants. Donc, c'est important d'en chercher un, puis on a réussi à le faire.
On l'a. Puis on parlait de profondeur, expérience. Là, on est vraiment là-dedans. Profondeur, on est de plus en plus là-dedans, parce que là, on va parler de Donovan Arsenault, qu'on est allé chercher du côté d'Acadie Batters. Ça aussi, ça fait partie de la profondeur, puis ça fait partie des trios, tu sais, des trios de travaillant un peu. Puis écoute, il y a quand même des bonnes productions offensives de son côté.
Ouais, c'est un gros bonhomme. 6'2", 200 livres. J'ai aimé le week-end qu'il a fait avec Noir et Mouski. C'est un gars qui fonce au filet. Il était même plus physique que je m'attendais. Il est allé de solide mise en échec contre Mouski.
A voulu impressionner son entraîneur dès le départ.
Ça a fonctionné. C'est ça. C'est un gars qui a un très, très bon tir. Il attaque le filet. Puis on voulait solidifier aussi notre top 9. Puis tu sais, on a une belle compétition à l'interne. Celle-là, c'est rendu entre les mains des joueurs où on a 4 trios. Et donc, voir une belle compétition, justement, un gars comme lui qui rentre, ça fait en sorte que présentement, Plourde est sur une 4e ligne, Pearson. Mais c'est des gars qui travaillent puis qui peuvent justement faire en sorte que s'il y en a un qui prend la légère, bien, il peut se remplacer. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis Donovan va amener cette profondeur-là. Puis encore une fois, je suis content de l'avoir fait d'avance parce que je considère que le prix n'est pas un rond numéro un. C'est quand même bien quand je regarde ce qui s'est été sorti après.
Ben, je voulais qu'on en parle un petit peu parce que tu disais des fois qu'il y avait des prix qui étaient exagérés au niveau des échanges. Comment tu l'as vu dans l'ensemble, dans la Ligue? Là, on va sortir un petit peu de notre corde à nous, mais comment tu as vu ça, les transactions avec ce que des équipes ont payé pour certains joueurs et tout ça? Là?